Oui. Je vais mettre un peu de lumière. Bien, c'est spécial, hein? On vient de chanter un chant qui dit de pousser nos limites de la foi, de faire grandir notre foi. Et le titre du message ce matin, le relâchement de la prière et de la foi. Hein? Comment est-ce que. Un nouveau chant qu'on commence à chanter ici et qui tombe en même temps que le sujet de la foi ce matin. Je pense que le Seigneur nous parle. Hein? En introduction, bien, lorsqu'on parle de la foi, à quoi est-ce qu'on pense lorsqu'on pense à la foi? Je vous laisse réfléchir quelques instants. À quoi est-ce que la foi fait une différence et dans quoi est-ce que ça fait une différence? Lorsque ça l'agit et comment est-ce que Dieu agit par la foi? Eh bien, lorsqu'on réfléchit justement à la foi, elle se manifeste par la prière. La bouche parle de l'abondance du cœur. Et lorsque on parle, lorsqu'on dit nos pensées, la foi vient en action ou se met en action. C'est spécial. Hein? Lorsqu'on réfléchit à ça, on pourrait dire même que nos paroles sont puissantes par l'Esprit de Dieu. Parce que si je parle avec foi, je prie avec foi, il y a des choses qui peuvent arriver qui vont nous étonner. Parfois, on peut penser à des choses. On peut réfléchir à des choses, et ainsi de suite, lire certains sujets, mais on dirait qu'il n'y a pas d'impact. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas faites sortir ces paroles qu'on a apprises par notre bouche. Notre sœur nous partageait tantôt, c'est intéressant, justement sur la foi et la prière. Lorsqu'on prie, est-ce qu'on pense vraiment à ce qui sort de notre bouche? Et ce qui sort de notre bouche, est-ce que ça vient de nos pensées ou ça vient de notre cœur? Il y a une grosse différence. Parce que je peux penser à des choses très intéressantes et très belles. Mais si ça ne vient pas du cœur, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, expérimenté et qui n'a pas eu un impact dans ma vie. Je peux partager des belles choses que quelqu'un a dit, par exemple. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis c'est vraiment intéressant, je trouve ça vraiment bon. Mais je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas mis en pratique. Et je n'ai pas vécu ce que lui a vécu. Et par où il est passé, ou ainsi de suite. Et chacun de nous, ce matin, nous pourrions nous édifier dans la foi. Comment? En partageant nos expériences. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie lorsque j'ai placé ma foi en lui. Parce qu'effectivement, le Seigneur agit lorsqu'on place notre foi en lui. Qu'on lui fait confiance, c'est ça que ça veut dire. Tant et aussi longtemps, je ne mets pas ma confiance en Dieu complètement, même au travers un passage qui paraît tout simple, qu'on sait par cœur, il n'y arrive rien. C'est spécial, c'est bizarre, hein? Mais la foi est agissante lorsque on l'exprime. Lorsqu'elle sort de notre bouche et qu'on place notre confiance en ces paroles qui viennent de notre cœur. Je peux lire des très belles paroles dans le Journal de Montréal. Je pense qu'il existe encore. Mais ça reste de l'information. Et lorsque je lis les paroles de Dieu, c'est plus que de l'information. C'est plus qu'un savoir, qu'une théologie, une doctrine. C'est le vécu de des personnes qui ont fait confiance à Dieu. Ça, ça fait la différence. Et ce que les autres, ce qu'eux ont expérimenté de Dieu, je peux l'expérimenter aussi. Parce que la parole de Dieu me dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne flétrit pas, ne change pas, d'aucun iota, nous dit Apocalypse 22. Elle ne change en aucun, aucun point de lettre n'a changé. Il ne peut être changé. Sans les conséquences graves, je pourrais rajouter. Donc, ce matin, le relâchement de la prière et de la foi, bien, m'est venu lorsque je méditais sur le message pour ce matin et m'est venu ce passage de Luc, chapitre 18, versets 7 et 8, où Jésus nous dit ceci, « Que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et s'ils crient à lui jour et nuit, c'est parce qu'il y a peut-être des combats, puis ça, différentes choses, hein? Notre frère a commencé une série sur les combats. Et je voulais pas trop empiéter dans son sujet, mais j'ai pas le choix quelque part parce que la foi rejoint les combats. Je veux pas. Donc, les élus. Donc, lorsqu'on fait confiance à Dieu, qu'on a donné notre vie au Seigneur, on devient des élus de Dieu, des enfants de Dieu, hein, différents termes que nous est employés dans les Écritures. Et cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas à crier jour et nuit au Seigneur et à le prier, à intercéder, à chercher sa face, et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas seulement aux jours que j'ai accepté le Seigneur, que là, oui, le fardeau devient léger avec le Seigneur, mais ça reste un fardeau pareil, qui parfois est pesant. Et le Seigneur nous dit, déchargez-vous sur lui, hein, de tous vos soucis. On connaît ces passages. Hein? Verset 8 nous dit, je vous le dis, il le fera promptement justice. Dieu nous fera justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Et lorsqu'on regarde tout ce qui se passe depuis quelques décennies, ou parce que j'essaie de regarder tout ce qu'on peut aller, mais depuis que les prophéties ont commencé à se réaliser de plus en plus, et on parle des années 60 où Israël est redevenu une nation, et que le peuple commence à retourner en Israël et que c'est rendu une terre fertile, qui était un désert pendant beaucoup de décennies, je pourrais dire, pratiquement depuis la destruction de Jérusalem des alentours 70, bien, on voit que les prophéties commencent à s'accumuler et à toutes s'accomplir une après l'autre. Et cela nous dit, nous fait un petit, devrait nous faire un petit tilt, « Oh, le Seigneur revient, puis c'est vrai, là. » Il y a plusieurs choses qui nous montrent que le Seigneur revient. Et le fait de ce que Jésus nous dit ici. Lorsque je viens, lorsque le Fils d'homme reviendra, lorsque le Seigneur revient, il va avoir des temps difficiles, mais trouvera-t-il la foi? Et la foi qui nous est parlée ici a le sens de croyant engagé dans la prière. Les croyants engagés à la prière. On peut être occupé à bien des choses aujourd'hui. C'est pas compliqué, hein, s'occuper. On peut tout le temps trouver quelque chose à faire. Soit être le téléphone des mains toute la journée. On peut scroller, puis ça en passe du temps. C'est un mangeur de temps. La télévision aussi qui mange beaucoup de temps. Le travail nous mange du temps. Tout nous parle. Tout vient dans cette vie pour venir nous voler du temps. Pourquoi je dis nous voler du temps? Parce que c'est du temps que on devrait mettre avec Dieu. Il y a beaucoup de temps qu'on perd, qu'on pourrait mettre pour le Seigneur. À quoi Jésus fait-il référence quand il dit « Lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Bien là, on doit aller voir aussi le contexte. C'est pourquoi je dis que la foi ici est reliée à un engagement dans la prière. Bien, voyons le contexte qui commence au verset 1 du chapitre 18 de l'Évangile selon Luc et qui va jusqu'au verset 6, qui est juste avant notre texte de ce matin. Donc, Jésus leur adressa cette parabole pour montrer quelque chose. Et le Seigneur nous montre par des paraboles différentes choses qui sont une nécessité et même un devoir. Et il a dit ici, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. C'est pas une option, la prière. Et dans les temps où le Seigneur revient, c'est pas une option de mettre la prière de côté. Il faut faire très attention lorsqu'on touche à la prière. Parce que le Seigneur l'a établi pour quelque chose de très important, qui est la foi. Et on va le voir tantôt, plus en détail. Verset 2. Il dit, il avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, et dans le sens de traiter durement, même de battre, dans les textes grecs que ça nous donne comme définition. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique et pécheur. Si dans le monde, ceux qui ne croient pas, qui ne font pas confiance en Dieu, qui ne se tournent pas vers Dieu, à un moment donné, rendent justice eux. Comment notre Dieu, lui, ne rendra pas-t-il justice à ses élus qui créent à lui jour et nuit? Si dans la loi, dans la loi de ce monde, ceux qui ne croient pas en Dieu finissent par faire le bien, comment Dieu qui est bon ne ferait-il pas envers toi ce matin? C'est ce qu'il veut accomplir. Est-ce qu'il y a encore des croyants engagés dans la prière qui le suivent et le servent avec amour et cœur dans ces derniers temps? Le contexte pour montrer qu'il faut et que c'est un devoir de toujours prier sans relâche, même quand la réponse tarde à venir, prie. Même quand c'est dur, puis il faut que tu cries à Dieu, prie. Arrête pas. Parce que lorsque le Seigneur va revenir, va-t-il trouver des personnes qui prient encore? Et pourquoi dans ce monde aujourd'hui, c'est la prière qu'on essaye d'enlever partout? Parce que c'est ça qui fait grandir notre foi. C'est à partir de la prière que notre foi grandit. Lorsqu'on comprend ça, je pense qu'on devrait réfléchir davantage et dire, je devrais passer plus de temps à prier que faire d'autres choses. Même lire les Écritures, c'est important. Mais dans le contexte ce matin, entendez ce que je dis. Prier, c'est encore plus important que lire. Dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 8, Jacques parlera à ses frères. Il dit, mes frères, vous qui connaissez Dieu, qui aimez le Seigneur, qui le suivez, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Comment? Par la foi. Afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est ça que ça vient faire. C'est ça que ça vient changer dans ta vie. Ça t'affermit en Dieu. Ça t'affermit dans le Seigneur. C'est la foi qui vient t'affermir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande, et la demande ici, comment est-ce que je la demande à Dieu? Par la prière. Et si qu'il la demande à Dieu avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. On travaille le chant tantôt, hein? On parlait de marcher sur les eaux. Mais celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ouais. Seigneur, je te vois pas agir dans ma vie. Seigneur, hein? On crie à Dieu. Mais est-ce que tu fais confiance? Est-ce que tu tournes vers lui? Est-ce que tu cherches sa présence? Verset 8 nous dit, cet homme est irrésolu, vacillant et incertain, inconstant et instable dans toutes ses voies. Beaucoup de mots, hein, qu'on a dans la définition du grec. Pour nous aider à comprendre ce que Jacques nous dit ici. On ne peut pas s'imaginer que le Seigneur va répondre à nos prières. Si on ne prie pas, si on ne fait pas confiance, si on ne s'attache pas à lui. Et quand il arrive le malheur, « Oh Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? » Où est-ce que tu étais hier? Le Seigneur pourrait nous dire cela ce matin. Où est-ce que tu étais hier? Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas parlé? Que tu ne t'es pas approché de moi? Ça fait combien de temps que tu ne m'as pas prié? Jacques nous dira plus loin, au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu, puis il va s'approcher de vous. C'est pas compliqué. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nous avons vu jusqu'à maintenant deux aspects à la prière de la foi. Et parfois, nous pouvons importuner le Seigneur, hein, comme le juge unique, crier à Dieu et revenir encore vers lui jusqu'à ce qu'il nous fasse justice. Car la parabole nous rappelle que pour obtenir justice, nous devons être persévérants dans la foi. Persévérer dans la foi. D'autres fois, nous demandons qu'une seule fois, en nous en remettant complètement et entièrement au Seigneur. Il y a deux aspects qu'on a vus. Et le deuxième, bien qu'on va voir encore plus. Il y a des fois où on prie le Seigneur et qu'on prie et qu'on crie au Seigneur même. On attend, on persévère. Seigneur, je sais que tu écoutes. Je sais que tu es là. Je sais que tu agis. Et d'autres fois, on va demander au Seigneur, puis ça tombe du ciel. Hein? La réponse arrive tout de suite. Tout comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 9, 10 et 13, Lorsqu'il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. S'en remettre à la volonté de Dieu qui agit sur la terre comme dans le ciel. Et verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. C'est à lui qu'on prie, et c'est lui qu'on prie. C'est en lui que nous plaçons notre foi, celui qui a tout pouvoir et à qui appartient la force, la puissance et la gloire. C'est pas n'importe qui. Il n'y a personne qui peut vous donner ce que Dieu peut vous donner. Équivaloir même à moitié. La prière depuis quelques décennies est un sujet de controverse et sachez que ça fait partie de l'accomplissement des prophéties du retour du Seigneur. Et pourquoi de plus en plus même dans le milieu chrétien, on a de la misère à voir des gens dans la prière, bien, ça fait partie de ça. Notre foi diminue et la prière, à cause de la prière. Dans Luc, chapitre 21, verset 9, il nous dit, « Quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de soulèvement, de trouble et de désordre, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. » C'est seulement les premiers signes. Ça fait partie des premiers signes. Et ça fait un bout de temps qu'on le voit. Et personnellement, lorsque je suis venu au Seigneur, on avait des temps de prière, puis de toutes sortes, hein, 3 ou 4 fois par semaine, puis des nuits de prière, d'intercession, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est difficile. C'est difficile, la prière. L'appel à la prière est difficile. Parce que à cause des soulèvements, des troubles et du désordre qu'amène ce monde dans la vie même des croyants et des chrétiens. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, dira ceci, chapitre 3, verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns croient. Ah, j'ai le temps de faire bien des affaires, le Seigneur n'est pas à veille de revenir. » Fais attention. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et si la parole de Dieu nous prévient que Dieu, que le Seigneur ne veut pas que les gens périssent, c'est parce qu'ils sont en train de périr. C'est parce qu'ils sont en train de périr. Frères et sœurs, on ne suit pas une religion qui dit que si tu te fais baptiser, ben tu es sauvé. Hein? Or, l'Église, aucun salut. C'est pas ça la parole de Dieu. C'est pas ça qu'elle nous enseigne. La parole de Dieu est claire. Il faut se repentir pour être sauvé. On ne peut pas passer à côté. Pourquoi? Parce que Jésus serait mort en vain à la croix, si ce serait seulement par nos œuvres qu'on serait sauvé, ou seulement par un baptême, ou seulement par... Mettez ce que vous voulez. La seule chose qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et lui n'est pas une religion. C'est l'amour de Dieu manifesté envers nous qui croyons, qui avons placé notre foi en lui. Ça, c'est le vrai évangile. C'est la saine doctrine à laquelle nous devons nous attacher coûte que coûte. Malgré les temps et ce qu'on vit, on doit s'attacher aux paroles du Seigneur. Car la repentance est un changement d'esprit. Dans Romains 12, 2, ça nous dit un renouvellement d'intelligence de quelqu'un qui se repent des desseins qu'il a formés ou des choses qu'il a faites pour changer de vie. Pour ceux qui prennent des notes, ceux qui suivent, il y a Matthieu chapitre 4, verset 17 et Éphésiens 4, 23 aussi qui en parle. Mais j'en parlerai pas. Vous irez regarder ce que disent ces références. Paul nous enseigne de se protéger pour se revêtir. Et frères et sœurs, on a besoin de faire attention. Je vais dire encore la prière de la foi. On a besoin. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 8, il nous a dit, « Mais nous qui sommes du jour, parce qu'on voit ce qui se passe, on voit ce qui s'en vient aussi, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Et la cuirasse, ou corset, qui est fait en deux parties, il protège le corps, les deux côtés, du cou jusqu'au ventre et le dos. L'autre partie. La foi et l'amour protègent le corps du croyant et son cœur. C'est pour ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'on a besoin de la foi. Parce que c'est ce qui protège notre cœur. Des attaques qu'il voit venir. Et pourquoi est-ce que cette cuirasse est en avant comme en arrière? Parce qu'elle protège aussi des coups qui viennent dans le dos. Par en arrière qu'on ne voit pas arriver. Intéressant, on n'aurait pas avoir juste une cuirasse ou une armure qui a juste une en avant. Non, lorsqu'on regarde quelqu'un qui s'en va à la guerre, il est habillé entièrement des deux côtés. On n'a pas une demi-armure. Pourquoi? Parce que si quelqu'un arrive en arrière, il doit être protégé aussi. Et la foi, c'est ce qu'elle fait dans ta vie. Elle te protège en avant et en arrière. Alors, je réfléchissais là-dessus, j'étais béni. Comment est-ce que le Seigneur a pensé à tout? La prière, c'est l'arme qui nous a été donnée et qui nous protège par la confiance, la conviction et surtout notre appartenance à Dieu. La foi que nous mettons en lui. La foi s'applique dans diverses applications de la charité, car il est dit dans Romains 12, et versets 9 à 21, pour ceux qui prennent des notes, et le verset 12 qu'on va regarder ensemble, en particulier, qui nous enseigne ceci, Romains 12, 12, « Réjouissez-vous en espérance. » Et l'espérance vient comment? Par la foi et dans la foi. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Les deux aspects ici, qui nous sont donnés, qui nous ont apportés. L'espérance, la patience dans l'affliction et la persévérance en prière. Ne pas se relâcher. Devons-nous nous réjouir de l'attente? C'est ce que nous dit Romain, plutôt Romain. On doit se réjouir de l'attente et être patient dans l'affliction, la détresse, la tribulation. Ce n'est pas facile, hein? Pourquoi est-ce qu'on peut se réjouir même dans la tribulation et ainsi de suite. Et même, car elle produit la persévérance dans la prière. Si le Seigneur nous donnerait tout de suite, on n'aurait plus besoin de persévérance. Et certains prêchent cet évangile, qui est un faux évangile. Le vrai évangile, c'est oui, l'affliction va venir. Oui, la détresse va venir, mais crie à Dieu, sois patient. Et tu vas le voir agir. Qu'est-ce que ça ferait aussi? C'est que nous serions tous indépendants et non dépendants. Quand j'ai besoin, je vais aller à Dieu, ils vont me répondre. Après ça, je peux faire ce que je veux. Mais la persévérance t'attache. T'attache, fait grandir ta foi, ton espérance, ta patience, et ainsi de suite. Et c'est ce qui te garde les yeux sur lui. Si on n'aurait pas ça, on aurait tout cru dans la bouche, tout de suite, paf! Ben, hein? C'est comme aller au fast-food, puis tu passes au service à l'auto, tu payes, tu ramasses ton snack, c'est réglé. On va se remplir à Bédène. Non, le Seigneur, il dit, il y a une file. Il y a une file au service à l'auto. Des fois, c'est long. Hein? On attend, il dit, vas-tu avancer? Il va-tu finir de parler? Il dit, ça commande que... Mais non, le Seigneur nous dit, ah, j'ai mis une file, tu n'as pas le choix d'attendre. Hein? Tu peux pas passer par-dessus. Puis si tu vas en dedans, tu sais que ça va être aussi long. Fait que deux semaines de rester assis puis de patienter. Une belle analogie. Apocalypse, chapitre 21, verset 4, nous dit que le Seigneur essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni labeur. Wow! Fini. En attendant, oui, on a ça, la persévérance, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, on aura besoin. Il n'y aura plus de deuil. On n'aura plus besoin de crier et de prier à Dieu. Il n'y aura plus de labeur, de dur combat, hein? Parce qu'on va être dans sa présence. Ça va être fini. On va pouvoir profiter comme des vacances à se reposer dans la présence de Dieu. Elle s'en vient, on peut parler de vacances. Il y en a beaucoup qui sont tombés en vacances. Et la parole de Dieu nous dit aussi, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. » Il n'y a pas marqué juste « prier », mais « priez sans cesse ». Pourquoi? Encore une fois, parce que la réponse n'est pas toujours tout de suite. Des fois, il faut être persévérant et il faut attendre. Mais en attendant, qu'elle nous dit Paul dans cette épître, au premier épître de Thessaloniciens, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car cela est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour toi, à ton égard. » Au lieu de te plaindre, puis de chialer, puis de prier, puis de prier, puis de dire « Ah, ça n'arrive pas. » Qu'est-ce que Paul nous dit ici? Rends grâce à Dieu en toutes choses. Change ton état d'esprit. Au lieu de te focusser sur ce qui ne va pas bien, rends grâce à Dieu. Au lieu de regarder qu'est-ce qui ne marche pas, que tu n'es pas capable, que tu sais que même si tu aurais la plus belle volonté du monde, que tu n'en viendras jamais à bout, loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu, c'est remercier le Seigneur. Loue le Seigneur. Mets-toi de la musique chrétienne. Écoute des chants qui t'amènent à adorer Dieu. Puis tu vas voir que les choses vont changer. Le Seigneur va te parler au travers des chants, au travers... Et lorsqu'on s'approche de Dieu, la parole de Dieu nous dit, on l'a vu tantôt, il s'approche de toi. Et lorsqu'il s'approche de toi, il vient comment? Avec toute sa grandeur, toute sa gloire. Et c'est pour ça que tes épaules peuvent se relâcher et dire, « Ah, c'est ça que j'avais besoin. » Le fardeau est encore là, mais il est léger. Parce que le Seigneur l'a pris. Mais je sais attendre. Comment est-ce qu'il va m'en sortir, lui? Hein? Qu'est-ce que lui va faire? Donc, il est vraiment possible d'être heureux en Jésus. Et le Seigneur nous a donné la meilleure et la plus importante chose qui est la prière pour l'être. L'exemple, c'est lorsque nous prions que nous croyons que le Seigneur va intervenir. C'est lorsqu'on place notre foi en lui qu'on sait qu'il va agir. Vous savez, la première chose qui s'éteint ou qui diminue chez un croyant rétrograde, et ce n'est pas moi qui le dis, mais la première chose qui va diminuer chez une personne qui s'éloigne du Seigneur, c'est la prière. Parce que la prière affecte ta foi. Et lorsque la prière est affectée ou infectée, la foi devient aussi. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à la prière. Et j'avais écrit, c'est la prière, car c'est elle et par elle la prière que nous voyons et goûtons toutes les réponses de Dieu. Lorsqu'il est écrit, goûtez comment l'Éternel est bon. Vous savez qu'on peut goûter. Quand est-ce que tu y goûtes? Quand tu l'as vécu, tu as eu de l'expérience, tu as vu le Seigneur agir, tu as goûté, ça goûte la gloire de Dieu, la présence du Seigneur. Il n'y a rien de comparable. Un jour, les apôtres ont fait une demande au Seigneur au sujet de la foi. Dans Luc chapitre 17, versets 5 et 6, les apôtres qui était avec le Seigneur, qui le connaissait, qui marchait avec lui, qui entendait tous ses enseignements. Ils ont posé une question sur la foi, et ça, c'est intéressant. Est-ce que vous êtes déjà arrêté à penser, à réfléchir à ça? Les apôtres qui servent, qui suivent le Seigneur, qui sont toujours avec lui, lui demandent, augmente-nous la foi. Tu es avec le Seigneur? Tu marches avec le Seigneur. Puis tu demandes d'augmenter ta foi. Tu as vu, tu vois ses miracles, tu vois tout ce qu'il fait, tu vois ses paroles, tu vois que tout ce qu'il dit s'accomplit. Tu marches avec lui, puis tu lui demandes d'augmenter ta foi. Moi, je trouve ça intéressant. Les apôtres qui étaient avec lui. Donc, pour nous ce matin, on sait que le Seigneur est là. Mais eux autres, ils étaient là vraiment, en chair, humain. Et ils ont posé cette question-là. Donc, ne demande-toi pas la question ce matin, pourquoi tu veux que le Seigneur te fasse grandir ta foi? Parce que toi, tu ne le vois pas. Tu peux goûter. Tu peux le voir agir. Mais tu ne peux pas le voir en chair, en personne. Puis eux le voyaient, puis ils ont demandé ça. Verset 6, le Seigneur dit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé ou moutarde, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Et il vous obéirait. OK. Seigneur, s'il va fort, hein? Je me suis posé la question, pourquoi un grain de sénévé? Ben parce que c'est une des plus petites semences qui existent, qu'on peut semer, qui va produire un arbre jusqu'à 3 mètres de haut. Et pourquoi Jésus va donner l'exemple du sycomore? Et j'ai fait des recherches. Ça m'intrigue. Le sycomore, c'est un arbre qui vient je dirais, à peu près la hauteur d'un 3 étages. C'est quand même assez gros. C'est un genre de vigne. Et donc, qui porte ses fruits et en abondance. Et cet arbre-là est pratiquement 2 fois plus large que haut. C'était vraiment immense. Et à quoi est associé cet arbre-là? À Zachée, qui est monté dans l'arbre et qui crie à Jésus, « Hey, je suis là! » Et Jésus dit, « Ben, je dois aller chez vous aujourd'hui. » Et de là, un homme a appelé le Seigneur et le Seigneur a été chez lui, l'a sauvé. Cet arbre-là vient est jeté dans le monde. L'océan est souvent l'image du monde dans les Écritures. Et dans l'Apocalypse, ça fait partie aussi des images représentatives aussi. Donc, Dieu veut que le monde l'appelle et chaque personne individuellement est appelée à appeler le Seigneur, à venir à lui. Et le Seigneur est et vient dans les maisons, bien dans ton cœur, dans ta vie, pour agir, te sauver. Et ce même appel, bien, est lancé dans le monde. Est lancé dans le monde. Mais Jésus va parler aussi, si vous aviez la foi, il y a ce « si-là ». Pourquoi est-ce que Jésus dit « si vous aviez la foi » Matthieu, chapitre 21, verset 22, nous dit « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Vous allez voir, je vais emmener. « Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. » Un autre exemple, Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23, nous dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le croyez-vous? Le croyez-vous? Qu'est-ce qui est important dans ce que Jésus nous enseigne? C'est ce que je parlais au début. La prière. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et si quelqu'un dit à cette montagne, et on voit Matthieu qui nous dit aussi, on a vu, demander avec foi par la prière. C'est pour ça qu'au début, je disais que la prière, c'est la démonstration de la foi. Plus que je vais mettre la prière en pratique dans ma vie, plus que le Seigneur va agir quand que je vais demander à Dieu quelque chose. Et le Seigneur va le faire à cause que j'ai placé ma foi en lui. Si j'ai placé ma foi en lui, tout ce que je vais demander à Dieu, il va le faire. Voyez le lien entre les deux? La foi et la prière. Et comme dans l'Évangile selon Marc, chapitre 11, verset 23, il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et s'il ne doute point en son cœur. » s'il ne doute point en son cœur. Tout part de là. Tout part de la foi, de ce qui nourrit notre cœur et de l'abondance de ce qui sort de notre bouche. Si ma foi est bien enracinée dans le Seigneur, que mon cœur dépend de la foi, est ancré dans la foi, que le Seigneur peut agir, lorsque je vais ouvrir la bouche, le Seigneur va agir. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. On n'a pas besoin d'apprendre des grandes prières. On n'a pas besoin de suivre des cours, des formations, de quoi que ce soit. Le Seigneur nous a tout donné. Il dit, crois dans ton cœur, rouvre ta bouche, puis ça va arriver. Crois dans ton cœur, prie le Seigneur, puis il va agir. C'est pas compliqué. Des fois, on veut se compliquer les affaires, hein? Ah, faut que tu fasses ça. Faut que tu fasses ça aussi, là. Faut que tu ajoutes ça aussi, là. Mais c'est pas compliqué. Tous les passages nous ramènent à ça. Tous les passages nous ramènent à cette base. Le Seigneur est le même pour chacun de nous ce matin. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur peut agir autant dans ma sœur que dans mon frère, que dans un ami qui croit en Dieu, qui a placé sa foi en lui. Et même en toi ce matin, qui cherche. Place ta confiance en lui et il agira. C'est la parole de Dieu qui nous dit ça. Approche-toi de lui et il s'approchera de toi. Attache-toi au Seigneur, puis tu vas le voir agir. Le Seigneur, ce qu'il demande, c'est pas compliqué. Nous, on aime ça, c'est compliqué ça, mais lui, il n'est pas compliqué. Place ta foi en moi, que cette foi puisse descendre jusque dans ton cœur. Que tu puisses vivre pour lui et servir. Et tu vas le voir, Seigneur. Tu vas le voir, tu vas goûter. Tu vas être émerveillé. Des choses grandioses qui se passent. Et ce n'est pas donné à les personnes en particulier, mais à tous également. Aujourd'hui, on essaie d'élever quelqu'un qui a un don particulier, mais les dons sont offerts, sont donnés à tous. C'est ça que le Seigneur veut. Le Seigneur agit autant dans n'importe qui ce matin. Le Seigneur peut servir de n'importe qui. On est en train de faire une formation avec une couple de frères sur le leadership, mais c'est ça. Le leadership, c'est qu'on n'est pas tous le même pouce. On n'est pas tous le même bras. L'autre, c'est une jambe, puis l'autre, c'est le corps, mais chacun a besoin de l'autre. Pas parce que certains ont des dons particuliers qui sont plus à la vue, qui sont plus importants que les autres. Nous sommes tous égaux parce que nous formons le corps du Seigneur, le même corps. Et chacun a un don particulier qu'il doit rechercher, faire grandir pour l'avancement de l'Église. Je partageais un frère, une fois, j'ai entendu une parole qui m'a... J'ai dit, si ça a vraiment du sens, cette affaire-là. Cherche pas à savoir, pose-toi pas la question, pourquoi j'irai à l'Église? J'ai pas besoin d'Église. Pose-toi la question plutôt, quel talent le Seigneur m'a donné pour l'Église? Parce que je dois être à l'Église. Si tu es à l'Église, c'est pour être au service, puis faire profiter le don que tu as donné. Et si tu restes chez vous, tu ne peux pas dire, ben, je reste chez nous, je n'ai pas besoin des autres, parce que tu as un don que le Seigneur veut se servir pour l'avancement de son œuvre, de son Église. On réfléchit à l'envers. Hein? Et ça, c'est l'ennemi qui vient nous attaquer dans la prière, dans notre foi, pour qu'on s'éloigne Mais non. Le Seigneur, lui, c'est l'unité. C'est le corps dont lui est la tête. Le relâchement de la prière et la foi vient lorsque nous ne sommes plus vigilants et lorsqu'on ne se protège plus le cœur avec la cuirasse et le bouclier de la foi. Qu'on voit dans Éphésiens 6, 16. Ça, j'ai pris juste ce verset-là, Nelson, je ne l'ai pas trop. J'ai concis Éphésiens 6, 16. Il dit, Paul nous dit ici, prenez par-dessus tout, les autres choses que le Seigneur t'a données, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est avec ça qu'on arrête les coups. C'est la foi. Et c'est pour ça que Jésus dit, lorsque je vais revenir, lorsque le Seigneur revient, va-t-il retrouver de la foi sur la terre? Et c'est de cette foi-là qu'il parle. Ceux qui s'attachent et qui prient, qui gardent la prière en haut de la liste, qui prennent le temps de prier, s'approcher de Dieu, qui cherchent la face de Dieu. Oui, je sais, comme je disais tantôt, on peut être bien occupé, mais on devrait s'arrêter et dire qu'est-ce qui est le plus important. Pourquoi ça ne va pas bien? Notre passage dit, car il fera justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Non. Il ne tardera pas. Parce que le Seigneur vient. Il vient bientôt. L'épouse dit, viens. Apocalypse 22, hein? Dernier passage des Écritures. L'époux et l'épouse disent, viens. Le Seigneur et son épouse, qui est son Église, disent, viens, oui, viens, Seigneur. Wow! Et c'est ça qu'on veut ce matin. On veut voir le Seigneur. On veut l'attendre et être avec lui. Mais il vient chercher ceux qui sont gardés dans la foi et qui ont gardé la prière. Donc, c'est ce que j'avais à nous partager ce matin. Vous savez que même nous, hein, lorsqu'on amène des messages, bien le Seigneur a déjà commencé un travail avec un message qui nous a inspirés. Et la même chose hein, pour chacun de nous. Ensuite, lorsqu'on part dans la semaine, on n'est pas à l'abri, hein, même comme pasteur, enseignant, que lorsqu'on part dans la semaine, c'est des paroles qui nous reviennent, puis que si le Seigneur nous a donné, c'est parce qu'on va en avoir besoin. Et je pense que c'est ce que le Seigneur a pour nous ce matin, pour la semaine, les jours, les mois, à venir, de toujours se garder. Gardez notre cœur plus que toute autre chose, car de lui découle la vie, nous dit la parole de Dieu. Pas c'est les proverbes. Hein? Donc, c'est important de se garder en vie dans la présence de Dieu, hein? Dans la parole, dans sa volonté, pour qu'on puisse le voir agir. Amen. Donc, je vais vous inviter à vous lever et à inviter l'équipe de louanges à s'avancer.